France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Pourquoi le paon arbore-t-il une magnifique traîne alors que celle-ci entrave sa mobilité? Quelle utilité ont la crinière du lion et le bois des cerfs? Tous ces ornements, toutes ces couleurs, tous ces motifs, ces formes dont se parlent les animaux ne servent à rien d'autre qu'à exprimer leur présence au monde, exactement comme le font les humains lorsqu'ils se vêtissent avec soin. C'est ce qu'affirme notre invité ce soir, Bertrand Prévost. Bonsoir.
Bonsoir à vous.
Vous êtes professeur d'histoire de l'art et d'esthétique à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire et la théorie des images. Le dernier vient de paraître aux éditions de Minuit. Il s'intitule « L'élégance animale ». C'est le sujet de ce soir. Merci d'être avec nous ce soir, justement, dans Question du soir. Qui êtes-vous, Bertrand Prévost, lorsque vous observez un animal? Est-ce que vous retombez en enfance?
Oh là, c'est une belle question, ça, parce qu'elle porte sur les conditions même de visibilité de n'importe quelle chose qui se donne à voir, qu'il s'agisse d'un animal, et a fortiori quand on est historien de l'art, universitaire d'un tableau, et c'est justement peut-être les animaux qui nous le spectacle animal, mais il faudra voir si c'est motivé de parler de spectacle, qui impose des conditions de regard, des conditions de visibilité qui ne sont justement plus celles du spécialiste, de l'historien de l'art universitaire attentif aux images, et donc comme vous le suggérez, ce regard enfantin qui se démontre assez facilement quand on accompagne ou quand on est accompagnant d'enfants à la ménagerie ou au zoo, et donc qui doit se déprendre d'un certain type de regard qui chercherait à identifier, à être attentif pour pouvoir reconnaître des formes, et au contraire un regard qui se laisse, qui retrouve une forme d'innocence et qui se laisse complètement pénétrer par ce qu'il faut voir.
Mais alors, est-ce que vous arrivez justement à vous déprendre? Est-ce que vous réussissez à vous dépouiller de tous ces savoirs qui se sont construits dans vos études, dans vos recherches, pour retomber, je le redis, en enfance?
Oui, mais je dirais que ça suppose en fait cette assaise du regard suppose en réalité un véritable travail et qui en passe, je dirais, par un type de regard qui n'est plus fixé sur des spécificités, puisque là on parle des animaux, je veux dire sur des spécificités biologiques ou zoologiques, exactement de la même façon que lorsqu'on regarde un tableau de la Renaissance, ce que je fais puisqu'à la base c'est mon métier, il faut se déprendre d'un regard qui serait du regard spécifique qui nous enjoindrait de regarder un tableau, c'est-à-dire depuis une position fixe qui serait celle d'un spectateur, dans un lieu dédié spécifiquement à l'art, qui serait le musée, quand bien même toutes ces choses-là existent. Mais il faut, depuis ces lieux mêmes, depuis ces conditions spécifiques de visibilité artistique pour les œuvres d'art, zoologique pour les animaux, essayer justement de sortir de se déprendre de cette spécificité pour voir. On va en parler, j'imagine bien, mais pour voir au contraire ce qui s'ouvre, ce qui traverse ces images, qu'elles soient artistiques ou animales, depuis un extérieur qu'on ne peut pas réduire à une spécificité sociale, matérielle ou biologique.
Alors tentons de comprendre justement ce qui s'ouvre, ce qui traverse ces images, et commençons par écouter la très belle voix de Jean-Christophe Bailly. Il était l'invité de l'émission Réplique, produite par Alain Finkielkraut sur France Culture, c'était en 2014.
Ce qui est très frappant quand on voit les girafes en nature, disons, chez elles, dans les réserves, c'est la sensation de ralenti. C'est-à-dire, on a l'impression qu'elles tournent pas dans le même film que nous. Mm-hmm. Et qu'il y a quelque chose d'absolument magnifique dans cette lenteur, cette démarche, oui, etc. Mais en fait, chaque espèce animale, tourne un film différent d'une certaine manière. Et ce qu'on pourrait appeler la nature ou l'ensemble de tous les biotopes réunis, ça serait la totalité de ces films. Hein. Et ce qui est très curieux, c'est que nous, évidemment, on ne voit que le film qu'on est capable de tourner, on ne voit que le film humain, mais il me semble que ça ne demande pas un énorme effort spirituel d'essayer de s'ouvrir à ces autres manières de tourner le film du monde.
Qu'est-ce qui fait l'élégance animale, Bertrand Prévost? Est-ce que c'est, comme on l'imagine parfois, les motifs, les couleurs qui parsèment justement ces animaux, ou bien c'est tout autre chose? Ce que décrit notamment Jean-Christophe Bailly, c'est d'abord et avant tout un mouvement, une lenteur, une démarche.
En effet, l'extrait que vous avez choisi de Bailly vient fort à propos pour penser ce que moi j'appelle une élégance, qui ne doit pas justement se confondre avec une beauté animal. La beauté animale, on n'a pas attendu la fin le début du 21e siècle, ni encore moins moi-même, ma petite personne, pour la penser, sous des modalités théoriques qui sont grosso modo celles par lesquelles on pense l'art depuis les Grecs, la Renaissance, toute la pensée classique, c'est-à-dire des systèmes formels fondés sur une harmonie, un équilibre, une symétrie, un canon des proportions, toutes choses qui peuvent se calculer, se mesurer.
Une composition pratiquement.
Une composition, mais comme composition peut avoir plusieurs sens, je peux parler aussi de composition, mais en un autre sens. Une composition mesurable, calculable. Or, inversement, une élégance, tiens, qu'elle soit animale ou humaine, tiendrait davantage de quelque chose d'une grâce, d'un charme, de ce que j'essaie de penser comme, plus théoriquement, comme une expressivité du mouvement. Plutôt, moi, je m'intéresse aux formes et aux couleurs, mais de c'est-à-dire d'un je ne sais quoi qui ne peut pas se réduire à une seule beauté et qui, on va le voir, va s'ouvrir à quelque chose d'autre qu'elle-même en se détachant de son substrat corporel, de son substrat individuel, de son substrat organique. La façon dont Jean-Christophe Bailly, dans l'extrait que vous venez de passer à l'antenne, parle de la façon qu'ont les girafes de tourner, là, on est bien amené à parler d'une chorégraphie, d'une sorte de chorégraphie, mais parler de chorégraphie, c'est justement essayer de sentir quelque chose, d'écrire de quelque chose de l'ordre d'une expressivité du mouvement de la girafe qui tient de la danse, quand bien même il n'y a aucun rapport entre les girafes et la danse. Donc ça tire, si vous voulez, ça tire la girafe du côté de nos propres mouvements giratoires humains, pourquoi pas le ballet, le manège. Voilà. Et donc là, on serait dans une sorte d'élégance du mouvement, parce que justement, il ne peut pas se projeter, se décalquer sur une réalité biologique, zoologique.
Mais alors, est-ce que ce dont vous nous parlez là, Bertrand Prévost, est-ce que ce n'est que projection humaine sur un monde animal, ou est-ce qu'on peut estimer que le monde animal, si je puis dire, a conscience de cette élégance, la maîtrise, en joue, et même parfois l'assume pleinement ?
Ah, alors, bon, ça, c'est tout un pan du questionnement, plutôt de la part des zoologues et des biologistes sur ces formes animales. Bien sûr, le darwinisme et après coup le néo-darwinisme sont passés par là pour tenter d'expliquer ces formes du point de vue de la sélection naturelle. Quand on nous explique que j'ai bien expliqué le mot expliquer ici là, il prend tout son sens si on y voit une raison précisément explicative. Quand on explique la présence de plumage pour se protéger des intempéries ou d'autre part de la sélection sexuelle où les mâles arborent des parures somptueuses pour séduire les femelles. Là, la question n'est peut-être pas tant celle de la conscience ou de la non-conscience que justement de l'utilité. Alors que précisément, il y aurait expressivité des formes pour faire naître une apparence, l'apparence n'étant justement pas la forme, quand l'utilité n'est plus engagée.
Sur ce sujet, la voix de Vinciane Després, elle s'exprimait sur France Inter au micro d'Ali Badou, c'était l'an dernier.
Darwin disait très clairement, il l'a écrit à plusieurs reprises, que les animaux sont sensibles à la beauté. Alors en plus, dans la descendance de l'homme, à un moment donné, il va écrire, ça m'avait fait vraiment rire. Et je me demande pour les singes comment ça marche, disait-il, parce qu'ils ne sont vraiment pas très beaux. Darwin était persuadé que beaucoup d'animaux utilisaient des stratégies qui pouvaient toucher la sensibilité des autres, et notamment des stratégies de beauté. Et puis on va oublier ça. Je veux dire, les biologistes ne vont pas du tout être d'accord avec Darwin. Sélection sexuelle, c'est vraiment quelque chose qui sera inacceptable. Pour des raisons idéologiques aussi, parce que ça voudrait dire que ce sont les femelles qui déterminent l'apparence des mâles. Et deuxièmement, ça voudrait dire, et ça c'est encore plus inacceptable, que les mâles viendraient parader devant les femelles pour montrer leur beauté. Et puis, au début du XXe siècle, il y a des scientifiques qui vont dire, mais tout compte fait, ça pourrait marcher. Et alors, la théorie va être réacceptée à ce moment-là. Et puis, il y a des scientifiques, ces dernières années, qui vont faire une proposition extraordinaire et dire, revenons-en à Darwin et imaginons que c'est pas du tout fonctionnel, que c'est pas du tout parce que ça représente de la vigueur. Simplement, les femelles seraient attirées parce que la beauté attire.
Je reformule un tout petit peu ma question précédente, Bertrand Prévost. Est-ce que les animaux, comme le dit Vinciane Després en s'appuyant sur certaines théories de Darwin, est-ce que ces animaux sont sensibles même à la beauté ?
Bien, d'une certaine façon, bien sûr, on peut répondre que oui. C'est tout le sens de la théorie de la sélection sexuelle, puisque les femelles seraient attirées précisément par les mâles les plus somptueux, Alors après, faut être très très précis sur la réponse. Moi, je suis pas zoologue de métier, donc je pourrais pas précisément vous répondre comme je le souhaiterais. Mais donc de ce point de vue-là, oui, c'est-à-dire qu'il y a un degré de perception tout à fait attesté, avéré.
Je voudrais vous lire un extrait de la théorie de la démarche de Balzac, évidemment. Je le cite, il écrit « Vous me croyez sorti de la théorie de la démarche. Laissez-moi faire. Je fus stupéfait en admirant le feu des mouvements de cette chèvre, la finesse alerte du chat, la délicatesse des contours que le chien imprimait à sa tête et à son corps. Il n'y a pas d'animal qui intéresse plus un homme quand on l'examine un peu philosophiquement chez lui. » Rien n'est faux. Alors je fis un retour sur moi-même et les observations relatives à la démarche que j'entassais depuis plusieurs jours furent illuminées par une lueur bien triste. Un démon moqueur me jeta cette horrible phrase de Rousseau « L'homme qui pense est un animal dépravé ». Alors, en songeant de rechef au port constamment audacieux de l'aigle, à la physionomie de la démarche en chaque animal, je résolus de puiser les vrais préceptes de ma théorie dans un examen approfondi d'acti Animalium, j'étais descendu jusqu'aux grimaces de l'homme, je remontais vers la franchise de la nature, fin de citation, que nous dit Balzac justement sur cette élégance animale et surtout sur ses ressources, sur les ressources qu'elle nous apporte.
C'est magnifique l'extrait que vous rapportez, qui se trouve au début de mon livre, parce que il faut se mettre dans la position de Balzac, qui écrit un petit traité sur la démarche humaine. Sur les démarches humaines, traité qui prend sa place dans, je vais dire, les petits traités cosmétiques de Balzac, sur la toilette, c'est toute la littérature du dandysme, hein, Barbey d'Aurevilly, jusqu'à Oscar Wilde, tout cela. Sauf que pour penser cette cosmétique humaine, cette théorie en l'occurrence de la démarche, il en trouve les ressorts justement dans les modes animaliers de la locomotion, mais en des façons qui n'ont plus rien à voir avec, je sais pas, la marche des animaux d'Aristote, c'est-à-dire un mouvement mécanique, mais au contraire pour trouver dans les animaux quelque chose comme une spontanéité, une grâce, comme on aurait dit d'ailleurs à la Renaissance, c'est-à-dire une façon de se déprendre complètement, hein. Les Renaissants nommaient cette grâce la sprezzatura, ce qui est presque intraduisible en français, mais le S vous dit quelque chose de la privation, la déprise de soi d'un animal qui y va, qui met tout dans son mouvement et dans son apparence.
Mais alors c'est bien cela qui intéresse Balzac, hein, bien plus que le chatoiement, la brillance, la vivacité, les contrastes des pelages. Encore une fois, c'est le mouvement, c'est l'élégance, c'est pas la beauté.
Tout à fait. Alors là, on peut peut-être en venir à un point très délicat, c'est que, voyez-vous, dans l'extrait que vous donniez de Bailly ou dans les textes de Balzac sur la démarche, on voit bien que cette grâce, ce charme, cette élégance tourne autour de quelque chose de l'ordre du mouvement, donc, et plus généralement du comportement animal. Mm-hmm. Et en effet, ça, c'est tout à fait à prendre. Et on associe assez facilement la grâce et le mouvement. Mais c'est une autre paire de manches, si je peux dire, de penser ce qu'il en serait de cette manière d'être, de cette grâce, non pas tant pour des mouvements que pour des formes et des couleurs. Et là, on est beaucoup plus embêté par toute une tradition artistique et philosophique, dans le fond, hein, qui nous enjoint à penser la forme, les formes et les qualités, hein, donc les motifs, les formes, les couleurs, comme des choses fixes, comme des choses qui ont leur étendue propre, qui sont là devant nous, comme des évidences qualitatives, des couleurs, ou comme des motifs qui sont là, je dis bien comme des évidences, et qui sont imperméables à toute forme de grâce. Voyez-vous, c'est plus difficile de penser le mouvement même de la couleur comme le mouvement même de la rayure ou le mouvement même de la tache comme quelque chose d'apparaissant. C'est ce mouvement-là que j'essaye de penser comme mouvement expressif, comme image expressive.
Et pourtant, je me disais, en vous lisant, est-ce que votre prisme, celui de l'élégance animale, ne porte pas en lui-même une forme de risque aussi au moment où des animaux disparaissent ou des espèces sont en danger? Est-ce que cela ne porte pas le risque de s'intéresser uniquement ou du moins prioritairement aux animaux que l'on va trouver élégants en délaissant les autres, en mettant ceux que l'on trouve peut-être moins élégants, moins beaux, moins attirants sur le bord de la touche et à moins s'intéresser, j'allais dire, à leur vie, à leur survie, à leur intérêt d'être vivant?
Oh, alors là, de ce point de vue-là, le vivant animal ou animalier offre une variété où le mammifère le plus ressemblant de l'homme, le primate, est aussi intéressant, visuellement parlant, sinon moins que la plus petite crevette transparente.
On peut vivant. Trouver de l'élégance dans la hyène ou dans le moustique.
Mais c'est extraordinaire. Mais oui, mais même dans des endroits qui sont pour nous justement très très hétérogènes, jusque dans les abysses des océans, où vous avez des méduses, des calamars transparents et qui d'ailleurs présentent des caractéristiques formelles tout à fait étonnantes, puisque ces animaux transparents, qui sont parfois bioluminescents, parfois non, possèdent dans leur structure interne, donc je veux dire dans leurs organes internes, des caractéristiques expressives des animaux opaques, donc la majorité de ce que nous on appelle les animaux, c'est-à-dire des jeux de couleurs, presque des motifs, une répartition régulière, tout ce qu'on va trouver dans le plumage, dans les motifs sur des poils, mais qui sont à l'intérieur même de l'animal. Et ça, à 1000 mètres ou à des centaines de mètres dans les profondeurs océaniques.
L'élégance animale donc se loge absolument partout. Et dans le même temps se pose une autre question, est-ce que les modes existent, les modes au sens de la mode et de la mode humaine, j'allais dire. Est-ce que la mode existe aussi chez les animaux ?
Alors, si l'on déphase, si l'on arrache la mode à sa réalité humaine, c'est-à-dire à sa réalité sociale et à sa réalité temporaire, parce que quand on pense la mode vestimentaire, bien sûr, on pense à une variation uniquement dans le temps. Selon le temps. Ah ben, ce n'est plus la mode de la rayure, maintenant c'est la mode des pois ou des pastilles. Bien.
Mais bon. Vous êtes à jour, je vois.
Oui. Je suis pas sûr. Mais bon. Mais en tout cas, c'est peut-être abstrait. C'est peut-être une vision assez abstraite de la mode. Peut-être faudrait-il en revenir. Et ça, c'est peut-être aussi le cadeau que nous font les animaux à un degré de variation ou de variabilité que charrie le concept même de mode. Mode, c'est une modalité de... Regardez comment fonctionne la mode quand un motif est à la mode, quand les rayures sont à la mode, quand pour la mode de cet hiver, c'est le noir est à la mode. Bien, le noir ou la couleur ou le motif ne se donne jamais comme un modèle, si vous voulez, comme un modèle formel ou un modèle chromatique qui serait identique à soi, qui nous serait présenté et que les différents vêtements, les différents habits copieraient. Non, ces différents habits sont différentes modalités sont différents modes d'un thème qui ne fonctionne pas comme un modèle, mais autour duquel, si vous voulez, toutes les différentes occurrences fonctionnent comme des petites différences d'une variation extraordinaire.
Mais alors, comment cela s'applique-t-il justement aux animaux? Si je prends par exemple le cas du zèbre, vous avez parlé de rayures, si je prends le cas de la grenouille, puisque vous en parlez dans votre ouvrage, comment ce concept de mode s'applique-t-il justement à ces deux espèces-là?
Eh bien, il y a fondamentalement, je dirais, deux grands domaines dans lesquels on peut penser ces apparences animales en termes de variation, c'est-à-dire en termes de mode, des différences spécifiques, c'est-à-dire des différences par espèce, où chaque espèce, on peut dire, revêt un habit d'espèce, avec des variétés d'espèces. Prenons, si vous permettez, je prends un exemple qui me touche particulièrement, les grands aras d'Amérique tropicale, qui ne vivent pas qu'en Amazonie, mais qui vivent aussi, qui vivaient du moins en Amérique centrale. Bien, on voit bien que ces grands aras, l'ara araraona, l'ara macao, l'ara chloroptère, ont à peu près la même distribution des couleurs sur leur plumage, mais ce ne sont pas les mêmes couleurs. On voit bien que là, on a différentes sous-espèces, en réalité ce sont des sous-espèces, qui tournent autour d'un type d'apparence, mais qui n'est jamais donné pour lui-même. Bon, ça, ce sont des différences ou des variations autour d'un thème, des variations interspécifiques, entre espèces ou sous-espèces. Mais il ne faut pas non plus négliger quelque chose que le néo-darwinisme met complètement de côté, parce qu'on n'est plus du tout dans l'héréditaire, ce sont les différences individuelles. C'est-à-dire que sur un ara macao, c'est l'ara rouge, celui qui a les couleurs les plus chatoyantes, il n'y a pas deux aras qui ont exactement les mêmes couleurs, qui ont exactement la même proportion de bleu ou de vert, ou exactement le même type de rouge. Et là, on a quelque chose de très beau à travers ces toutes petites différences, non seulement intraspécifiques, mais ces toutes petites différences individuelles, d'un individu à l'autre.
Si vous en êtes d'accord, Bertrand Prévost, nous allons aller un instant dans la grotte de Lascaux, grâce à Arte et un documentaire qui date de 2011. Il est signé Alain Jaubert.
Lascaux, tout est déjà là. Une cavalcade d'animaux forts de leur splendeur. Taureaux, vaches, chevaux, ours, cerfs. Les peintres savants de Lascaux ont été fascinés par la couleur des robes, par la forme des encornures, par la force des musculatures, par la vitesse des corps en mouvement. Ils ont défini pour des millénaires les rapports entre lignes, couleurs et formes, la beauté animale.
Il y a peut-être un concept que l'on trouve dans cette grotte de Lascaux, Bertrand Prévost, et que vous développez dans votre livre, c'est l'apparence animale vue, perçue, comprise, d'abord et avant tout comme une expressivité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ?
Complètement, complètement. C'est l'une des idées forces du livre, puisque théoriquement, ce que j'essaie de penser comme élégance animale, théoriquement ou philosophiquement, il faut lui donner le statut d'une figure expressive. Sur la question plus particulière des peintures,
qu'est-ce que ça veut dire justement une figure expressive ?
Une figure expressive, c'est alors il faut prendre le sens d'expression ou d'expressivité en un sens qui n'a à peu près plus rien à voir avec ce que on va dire la tradition philosophique depuis le XVIIe siècle comprend sous la notion d'expression. Qui, on va dire, a été à peu près polluée, à peu près complètement polluée ou contaminée par un concept de représentation, où exprimer signifie à peu près représenter. Quand je parle de forme ou d'apparence expressive, c'est plus du tout pour dire qu'il y a quelque chose qui se représente, comme s'il y avait un contenu intérieur qui s'extériorisait dans un extérieur, exprimer ses volontés, exprimer ses passions. Non, non, pas du tout. Au contraire, je prends l'expression comme ce mouvement d'arrachement, voyez-vous, j'en parle comme d'un mouvement. Ce mouvement d'arrachement, ce mouvement de décollement, je pourrais dire encore d'abstraction, voire de prise d'indépendance.
Et de prise de hauteur.
Oui, vous pouvez spatialiser ça par la hauteur, mais l'arrachement, le décollement me suffit pour penser l'autonomie d'une image, si vous voulez, mais ce qui ne veut pas dire du tout que cette image, elle est une idéalité détachée de toute réalité. Elle est détachée d'un substrat, et en l'occurrence, d'un substrat organique, d'un substrat animalier. D'ailleurs, on voit bien le cas que vous nous soumettez là, magnifiquement avec les grottes rupestres. Il y a bien une rencontre de deux formes d'expressivité. L'expressivité des animaux préhistoriques, des aurochs, de tous ces animaux auxquels les préhistoriens les sapiens, étaient particulièrement sensibles, puisqu'ils les ont figurés sur leurs parois rocheuses, mais également une expressivité du lieu, une expressivité de la grotte. Une grotte, c'est même quand elle n'est pas rupestre, c'est déjà une image. Donc, ces peintures sont la rencontre entre deux formes d'images, les images animales et les images même de la grotte. D'ailleurs, quelles sont les images, au sens des métaphores que l'on va prendre pour décrire la grotte, des métaphores sculpturales, des métaphores textiles. Il faut voir d'ailleurs comment les artistes, les peintres préhistoriques jouent de cette rencontre entre ces deux formes d'expressivité. Quand, par exemple, pour dessiner l'épine dorsale d'une bête, d'un auroch ou d'un mammouth, ils ne vont pas la dessiner, mais ils vont utiliser une ligne minérale, une infractuosité dans la pierre, pour faire se rencontrer, je dirais, des lignes de pierre et des lignes animales. Là, on a typiquement une rencontre expressive d'où naît une image.
Je voulais que vous nous parliez d'un homme parce qu'on lui doit beaucoup dans cette théorie large et passionnante de l'élégance animale, Adolf Portmann, et cette théorie justement de la biologie des apparences. Dites-nous qui il est, est-ce que cette théorie apporte ?
Oh, alors Portmann, en effet, c'est la figure centrale du livre. Mon livre n'est pas vraiment un commentaire du livre de Portmann, mais il essaie de cheminer avec la pensée portmannienne, qui était un zoologue, et c'est important de dire qu'il était zoologue et non pas philosophe, puisqu'il a un rapport très polémique avec la biologie qui en fait une sorte de has-been au XXe siècle. Il a traversé tout le XXe siècle dans la descendance de tous les grands naturalistes un peu philosophant du 19e siècle. Donc il était professeur de zoologie à Bâle et il a mis au cœur de sa théorie morphologique, d'une morphologie du vivant, d'une morphologie animale, cette notion de présentation de soi, Selbstdarstellung en allemand, se présenter, qui outrepasse toutes les formes d'utilitarisme, toutes les formes de fonctionnalisme que la théorie darwinienne et néo-darwinienne lui proposait. Donc c'est évidemment un allié de taille.
Les animaux donc se présentent entre eux, se présentent à eux-mêmes, se présentent au monde ?
Tout à fait. On peut dire que là, vous décrivez deux ou trois niveaux d'élargissement, du moins large au plus large, se présentent à eux-mêmes, se présentent à des congénères, se présentent à d'autres espèces et se présentent au monde. Cette façon, si vous voulez, de faire de la présentation de soi, non pas du tout une cerise sur le gâteau, une cerise esthétique sur le gâteau, voilà, mais au contraire, de montrer son... Portman insiste beaucoup là-dessus, de montrer son autonomie, son existence réelle, les apparences, ça existe réellement, ce n'est pas seulement dans l'œil d'un spectateur, ça déjà, ça fait frémir les biologistes, qui reproduisent l'opposition canonique sujet-objet, hein. Les apparences, c'est du subjectif, c'est pour les philosophes, il n'y a pas d'apparence dans la biologie, les apparences existent, et sur un plan qui est autonome. Il y a le plan du métabolisme, le plan de la physiologie, qui fait que les animaux se reproduisent, mangent, respirent, se meuvent, mais il y a aussi le plan de l'apparaître. Mais ce plan de l'apparaître, ce n'est pas parce qu'il est autonome, nous dit bien Portman, qu'il est extérieur à la vie. Il y a toujours cette phrase magnifique de Portman quand il écrit hein, « Paraître est une fonction vitale ». Et d'ailleurs, il parle bien de vitalité et non pas de vie organique. Vitalité ici disant que la vie des apparences peut-être ne doit pas se penser sur le même plan que la vie organique, c'est-à-dire déterminée par des conditions liées à la reproduction, au mouvement, à la respiration, à tout ce qui fait notre métabolisme, qui est en jeu.
Merci beaucoup Bertrand Prévost. Et pour frémir donc comme les biologistes, on recommande la lecture de votre livre « L'élégance animale », c'est aux éditions de Minuit. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire de l'art et d'esthétique à l'université Bordeaux-Montaigne. Merci d'être venu ce soir dans Questions du soir.